suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Preuve que depuis 8 années déjà, le bruit des canons l'a emporté sur la diplomatie en Syrie. Voilà 10 jours maintenant que les frappes se sont intensifiées dans la province d'Idlib et les territoires insurgés adjacents au nord-ouest du pays. Dernier grand bastion djihadiste qui échappe encore au pouvoir de Bachar el-Assad.
Dans votre journal également, alors que les négociations sino-américaines se poursuivent à Washington, la hausse des droits de douane décidée par le président américain sur des produits chinois est entrée en vigueur ce matin à la première heure.
Et la Chine a aussitôt indiqué qu'elle regrettait profondément cette décision et qu'elle prendrait des contre-mesures.
En France, les députés ont débuté ce matin l'examen du projet de loi destiné à encadrer les travaux de restauration de Notre-Dame.
Et parmi les questions soulevées, on retiendra notamment celle de savoir comment gérer les dons qui approcheraient désormais le milliard d'euros. Et puis autre sujet de débat, le souhait du président de voir les travaux réalisés en 5 ans, un délai jugé irréaliste par de nombreux spécialistes. Sur sa fiche, elle était classée zéro influenceur. Elle, c'est l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dont le nom apparaît avec 200 autres personnalités dans un registre établi par Monsanto pour leur opposition au glyphosate. Enfin, l'invité Europe de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Pascal Canfin, numéro 2 de la liste Renaissance de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À un peu plus de 15 jours de l'élection européenne, on va avoir un débat, une discussion qu'on va ouvrir avec nos deux invités. Sur l'avenir de l'Europe. Alors, chance ou cauchemar, qu'est-ce qui se joue actuellement? Nos deux invités sont journalistes Marion Van Rettergem et Guillaume Duval, tous deux auteurs d'un essai à ce sujet. Je vous présente tout ça dans une vingtaine de minutes.
Merci, à tout à l'heure. Même si le gouvernement syrien se refuse toujours à parler officiellement d'offensive contre Idlib, quoi d'autre que la détermination martelée par le régime de Damas à reconquérir ce dernier bastion islamo-djihadiste pourrait justifier la campagne de bombardement et les combats qui s'y déroulent quasi quotidiennement. Et d'ailleurs, Damas ne cherche pas spécialement à masquer ses raids aériens menés conjointement avec son allié russe, pour autant qu'ils soient présentés comme des tirs contre des positions terroristes. Sauf que dans cette province d'Idlib, l'écrasante majorité des quelques 3 millions d'habitants qui y vivent grâce à l'aide humanitaire sont des déplacés échoués après avoir fui d'autres bastions rebelles reconquis par le pouvoir et ses alliés. C'est ainsi que depuis le 29 avril dernier, les bombardements sur des quartiers résidentiels ont déjà fait plus de 80 morts au sein de la population. Ils ont par ailleurs rendu inopérants une douzaine d'hôpitaux ou centres médicaux, touché pas moins de 10 écoles et contraint au départ plus de 150 000 personnes. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Alors, les frappes de ces derniers jours sont les plus intenses depuis que Moscou et Ankara, parrain de certains groupes rebelles, ont annoncé un accord sur une zone démilitarisée qui devait séparer les territoires insurgés des zones gouvernementales et garantir donc un arrêt des hostilités. En clair, ce secteur devrait théoriquement être protégé par l'accord. Pourquoi n'est-ce pas le cas ?
Eh bien, parce que ce sont les djihadistes en fait qui contrôlent la province d'Idlib en général, le sud en particulier, où se sont concentrés les bombardements de ces derniers jours. L'accord russo-turc qui avait instauré en septembre cette zone démilitarisée impliquait que les Russes freinent la volonté d'offensive du régime syrien pendant que Ankara faisait rentrer un peu dans le rang les djihadistes. La Turquie n'y est pas parvenue. Elle soutient le Front National de Libération qui regroupe des anciens de l'armée syrienne libre et des factions islamistes plutôt modérées, mais pas la coalition djihadiste dure Ayat Tahrir al-Sham, issu d'Al-Qaïda, qui n'a jamais voulu de cette zone démilitarisée, qui ne l'a jamais vraiment évacuée. Moscou s'estime donc légitime pour agir, d'autant que les djihadistes ont attaqué à la roquette sa base militaire située dans la province voisine de Latakié. On n'en serait toutefois pas une offensive généralisée, parce que la Turquie ne tolérerait pas une telle offensive, elle qui a déployé des troupes à Idlib, elle qui ne veut pas aussi d'une nouvelle vague de réfugiés. En fait, selon plusieurs analystes, il s'agirait plutôt d'une offensive limitée au sud d'Idlib pour repousser les djihadistes vers le nord, pour permettre aux troupes syriennes de prendre le contrôle d'axes routiers essentiels entre Damas, Alep et Latakié, mais en gardant le statu quo plus au nord de la province pour ne pas aliéner la Turquie, qui reste essentielle quand même à Moscou pour une sortie politique de la guerre.
Alors avec des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et toujours pas le moindre signe de paix à l'horizon, la guerre en Syrie est entrée dans sa 9e année et chaque nouvelle offensive est une illustration supplémentaire de l'échec cuisant de la diplomatie dans ce conflit. Cet après-midi, le Conseil de sécurité aura néanmoins une réunion d'urgence à huis clos sur la situation donc dans la province d'Idlib. Que faut-il en attendre, Aurélien ?
Alors écoutez, franchement, pas grand-chose. Vous le disiez, depuis longtemps, l'ONU, les Occidentaux ont perdu la main en Syrie. C'est la Russie qui mène le jeu, avec Bachar al-Assad sur le terrain militaire, avec son processus d'Astana sur le terrain diplomatique. En fait, la réunion du Conseil de sécurité, elle va surtout servir à rebraquer les projecteurs sur la Syrie, histoire quand même de dénoncer la situation humanitaire, les violations du droit international, la nécessité aussi d'une solution politique pour maintenir un minimum de pression sur le régime syrien, sur l'allié russe de Damas, et puis aussi sur la Turquie, qui est particulièrement discrète depuis le début de cette offensive. L'opposition syrienne redoute en fait que les Turcs abandonnent tout simplement le sud d'Idlib au régime syrien pour avoir en échange les mains libres au nord, le long de la frontière, contre les poches kurdes qui sont les véritables terroristes pour Ankara.
Merci Aurélien Collier en direct de Beyrouth. Les tensions sino-américaines continuent à osciller au gré des menaces et des gestes d'apaisement. Pas plus tard qu'hier, les négociations avaient repris dans un climat d'accalmie relative, Donald Trump estimant toujours possible un accord, en particulier après avoir reçu une belle lettre, ainsi que l'a qualifié le président américain de son homologue chinois. Et puis, ce matin, les tensions ont repris de plus belle, l'administration de Washington ayant décidé de ne rien faire pour empêcher de mettre ces menaces à exécution. La hausse des droits de douane de 10 à 25% portant sur quelques 200 milliards de produits chinois est entrée en vigueur. Du coup, Pékin a aussitôt laissé entendre qu'il allait rétorquer par des contre-mesures, les nationalistes chinois ayant demandé à leurs dirigeants de ne pas courber les Chines devant Washington. Les précisions de notre correspondante à Pékin, Dominique André.
C'est le ministère chinois du commerce qui a réagi immédiatement dans un simple communiqué pour dire que la Chine regrette profondément les sanctions américaines et n'aura d'autre choix que de prendre de nécessaires mesures de représailles. Mais pour le moment, Pékin n'a pas dévoilé ces sanctions. Sur les réseaux sociaux chinois, les commentaires nationalistes se répandent pour dénoncer la hausse des tarifs douaniers en plein 20e anniversaire du bombardement de l'ambassade de Chine par l'OTAN à Belgrade. Mais c'est la Chine qui gagnera, peut-on lire sur Weibo, le Twitter chinois. Dans les produits chinois importés par les États-Unis et frappés par les nouveaux tarifs douaniers figurent des matériaux de construction, du mobilier, de l'électronique grand public et des produits chimiques. Est-ce une manœuvre de fin de négociation de la part des Américains pour faire pression sur la Chine, s'interroge un diplomate à Pékin. Cette hausse des droits de douane intervient alors que le vice-président chinois Liu He est à Washington pour les négociations commerciales et il semblerait aussi que les Américains et les Chinois continuent de parler en parallèle de la préparation d'un prochain sommet entre Xi Jinping et Donald Trump. Xi Jinping m'a envoyé une très belle lettre, a même révélé hier Donald Trump. La Chine, qui entend mener à terme son plan de développement économique et technologique, ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis.
Autre fiasco possible parmi les nombreuses mains tendues aux allures de bras de fer lancées par Donald Trump, les négociations censées régler l'épineuse question nucléaire. Pyongyang a confirmé ce matin avoir procédé hier à un essai de frappe à longue portée sans préciser le type d'arme testée. Il s'agit là du deuxième essai militaire en moins d'une semaine, alors que le régime nord-coréen n'avait plus tiré de missiles depuis novembre 2017. Assurant étudier la situation très sérieusement, le président américain, qui d'habitude insiste inlassablement sur la qualité de ses relations avec son nouvel ami Kim Jong-un, s'est ouvertement interrogé sur sa volonté de négocier sérieusement. Elle représente la lutte des femmes yézidis victimes de l'organisation État islamique irakienne. Nadia Mourad était ce matin de passage à Paris pour participer aux cérémonies de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Un peu plus tôt, la lauréate du prix Nobel de la paix 2018 a signé un accord de partenariat avec l'Organisation internationale des migrations, mais aussi le soutien du ministère des Affaires étrangères. La France s'est en effet engagée à accueillir 100 femmes yézidis d'ici la fin de l'année. Les précisions de Valérie Crovin.
Quand un premier groupe de 16 femmes yézidis et leurs enfants est arrivé fin décembre à Roissy, en provenance d'Erbil, Nadia Mourad était là pour les accueillir. Le centre de crise du Quai d'Orsay a confirmé ce matin qu'un deuxième avion doit ramener sur le sol français 30 nouvelles familles d'ici la fin du mois de mai. Ces femmes seront prises en charge médicalement, elles seront logées et leurs enfants scolarisés. Mais pour Nadia Mourad, le but n'est pas que toutes les familles yézidis qui vivent aujourd'hui dans des camps quittent leur région. Notre but est de reconstruire le Sinjar, dit-elle. Nous voulons aider les yézidis à retourner dans leur région d'origine pour qu'ils retrouvent leur maison. Mais nous voulons aussi lutter contre l'impunité et contribuer aux enquêtes sur les crimes commis par Daesh. Pour permettre aux yézidis de retourner vivre au Sinjar, il faut aussi reconstruire des infrastructures. Un hôpital verra ainsi le jour dans les prochains mois sous l'égide de la chaîne de l'espoir. Il sera cofinancé par la France et en partie par l'argent que Nadia Mourad a récolté grâce à son prix Nobel de la paix l'an dernier.
Selon un communiqué de l'Élysée, l'armée française aurait libéré 4 otages, dont les 2 Français enlevés au Bénin le 1er mai dernier. 2 militaires français auraient été tués lors de cette opération de libération menée au Burkina Faso. Comment lutter contre les contenus haineux sur Internet? Emmanuel Macron recevra aujourd'hui Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, afin d'élaborer avec le géant américain une stratégie, une rencontre censée illustrer la convergence de vues entre le patron américain d'un côté, qui appelle désormais lui-même les États à intervenir pour réguler Internet, et puis la France de l'autre, qui elle veut mettre en place de nouvelles législations au niveau à la fois national et européen. Alors l'ex-candidat de la Startup Nation et le PDG icône de la Big Tech s'étaient déjà rencontrés, c'était il y a un an. Depuis, Facebook avait accepté d'ouvrir ses portes à une mission de fonctionnaires français, lesquels ont cherché à mieux comprendre comment la plateforme repérait et retirait les contenus postés par les internautes. Cette mission doit rendre son rapport aujourd'hui, proposer donc des pistes en matière de régulation publique. Le groupe américain Monsanto, acquis depuis par l'allemand Bayer, n'a lui visiblement que faire de la régulation. Le journal Le Monde a eu accès à un document établi fin 2016 par un cabinet de lobbying pour l'agrochimiste américain Monsanto, en plein débat sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate, document duquel il ressort que la firme a secrètement fiché 200 personnalités en France, journalistes, politiques, dirigeants d'organisations professionnelles ou scientifiques, en fonction de leur position sur les pesticides. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors que le code pénal interdit la consultation de toute base de données à caractère personnel faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques d'une personne sans son consentement, ce document égrène, lui, ligne après ligne, les identités et surtout les opinions, donc soigneusement renseignées de 200 personnalités.
Oui, avec adresse privée, numéro de téléphone sur liste rouge, en tout cas sur l'un des 2 tableaux, car le fichier Monsanto comporte 2 tableaux soigneusement remplis de noms de personnalités, 200 noms en tout. La moitié sont des journalistes de tous médias. Ces documents que l'on découvre donc grâce à une fuite en provenance d'un cabinet de lobbying mandaté par Monsanto pour l'assister dans sa défense du glyphosate, date de fin 2016. Vous l'avez dit, à cette date, Monsanto fait tout pour obtenir le renouvellement de l'autorisation du Roundup au niveau européen. Son herbicide a déjà été classé comme cancérogène probable par le Centre de recherche internationale sur le cancer. Sur l'un des tableaux, les personnalités qui peuvent être des scientifiques, des politiques, des activistes, des dirigeants agricoles sont évaluées en fonction de leur position sur des thèmes liés aux problématiques concernant Monsanto, l'agriculture, les OGM, la santé, etc. Le tableau estime si ces personnalités sont crédibles auprès du public, leur capacité à se faire entendre, leur influence, leur soutien aussi à Monsanto. Le deuxième tableau est plus directement lié au renouvellement de l'homologation du Roundup. 80 noms avec un code couleur qui les répartit entre alliés potentiels à recruter, parties prenantes à éduquer, à surveiller. Certains peuvent-ils en gros changer d'avis, surtout. Dans la catégorie zéro influençable, on trouve Ségolène Royal, l'une des 25 politiques fichées. L'ex-ministre de l'écologie ne cache pas son opposition au glyphosate à l'époque. Et quand des médias comme le journal aujourd'hui Le Monde ou Radio France, dont plusieurs de ces journalistes sont fichés, des associations aussi comme Génération Future, eh bien décident de porter plainte. Ségolène Royal préfère une démarche institutionnelle pour nettoyer un système de lobbying parfaitement nocif, dit-elle.
Je pense que c'est aux autorités de s'en saisir, aux autorités administratives et judiciaires qui peuvent parfaitement se saisir de ce cas. Nombreuses sont les personnes citées. Je pense que ce serait mieux qu'il y ait une démarche institutionnelle et du coup des investigations sur les autres lobbies, parce que Monsanto ne doit pas être le seul à se comporter de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il faut utiliser, au lieu de uniquement se plaindre et de se scandaliser, je pense au contraire, il faut rebondir pour éliminer, pour nettoyer ce système de lobbying qui est parfaitement nocif.
Le groupe chimique Bayer, qui a racheté, vous l'avez dit, Monsanto l'an passé, indique qu'il ne connaissait pas, bien sûr, l'existence de ces fichiers.
Bien sûr. Merci Véronique Robérotte. Près d'un mois après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les députés ont commencé à examiner en séance ce matin un projet de loi exceptionnel pour la conservation et la restauration de la cathédrale. Le texte propose notamment une souscription nationale, des avantages fiscaux pour les donateurs, mais aussi d'éventuelles dérogations aux règles jusque-là en vigueur pour les monuments historiques, des dérogations qui depuis font l'objet de débats passionnés. Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour.
Ce projet de loi comporte 9 articles au total, pour un peu un chantier colossal dont la durée a été fixée par le chef de l'État lui-même à 5 ans, un objectif qui coïncide avec les JO de Paris de 2024. Or, c'est ce délai présidentiel jugé irréaliste par beaucoup qui ce matin a suscité le plus de remous dans les rangs de l'Assemblée.
L'empressement d'Emmanuel Macron a été critiqué dans les rangs de l'opposition, à droite comme à gauche. Clémentine Autain a ainsi proposé au nom de la France Insoumise de renvoyer le projet de loi en commission car, je cite, les pierres de Notre-Dame de Paris étaient à peine refroidies que déjà la mécanique du pouvoir macronien se mettait en place avec autorité.
Avec cette loi, le gouvernement s'aventure au fond dans une politique de gribouille, car en proposant une dérogation aux législations qui encadrent la restauration, l'archéologie, la sécurité, l'urbanisme, le respect de l'environnement ou encore tout simplement les marchés publics, il fragilise ce qui nous a permis de sauver ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris. Il crée un dangereux précédent et s'attaque au socle commun d'une législation fondée sur la collégialité, la rigueur et le sens du service public.
C'est dans un esprit qu'elle qualifie elle-même de constructif que Clémentine Autain propose de renvoyer le projet de loi en commission pour prendre le temps de la réflexion. Esprit constructif, le mot fait sourire celui qui avait fondé le groupe éponyme à l'Assemblée, Franck Riester. Le ministre de la Culture appelle, lui, les députés à faire confiance au gouvernement, à légiférer au besoin par ordonnance pour tenir le calendrier quinquennal de la reconstruction de Notre-Dame.
Le ministre que je suis sera le garant que les grands principes de préservation du patrimoine seront évidemment satisfaits avec cette restauration. Nous voulons faire ça en transparence, nous voulons faire ça en étant les plus en concertation possible avec tous les acteurs concernés, que ce soit l'évêché, que ce soit la ville de Paris, que ce soit les riverains, parce que c'est quelque chose qui a touché nos compatriotes et nous devons donc les associer pleinement à la restauration exemplaire que nous voulons de Notre-Dame de Paris.
Mais cette méthode du gouvernement ordonnance et loi d'exception représente encore pour les socialistes, les communistes, les centristes du groupe UDI Agir, pour le groupe Liberté et Territoire, un risque démocratique. Leur soutien ce matin à la motion de la France Insoumise n'a pas suffi à renvoyer le projet de loi en commission. L'examen du texte pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit donc toute la journée.
Merci Catherine Dutu. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert hier à la proposition de référendum d'initiative partagée de parlementaires opposés à la privatisation d'Aéroports de Paris, ouvrant ainsi la voie à la poursuite d'un long processus inédit pouvant conduire à la consultation de la population. Et effet immédiat de ce verdict, il n'y aura aucune décision sur la privatisation pendant le délai de la procédure. C'est ce qu'a assuré ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors pour autant, ce feu vert est loin d'être suffisant pour autoriser la consultation des Français. Le chemin est encore long, sauf qu'il y a un mois encore, il paraissait tout simplement improbable. Alors à force d'étapes soi-disant insurmontables, cette ultime marche est-elle franchisable? Et que risque au fond Emmanuel Macron? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Trois dangers guettent Emmanuel Macron dans cette affaire. Le premier est que cette privatisation d'Aéroports de Paris ressemble furieusement à celle des autoroutes en 2005, qui s'avère être, après coup, une très mauvaise affaire pour l'État français. Et c'est perçu comme tel par une grande partie de la population qui a l'impression, au quotidien ou à chaque départ en vacances, que les concessionnaires autoroutiers réalisent des profits considérables sur le dos du contribuable. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Français se montrent très sensibles à la question et ne comprennent pas pourquoi le pouvoir en place cherche à tout prix à privatiser ADP. Et ça pourrait conduire un grand nombre de personnes à signer la consultation que va lancer, dans le mois qui vient, le ministère de l'Intérieur. Le deuxième risque pour Emmanuel Macron est que cette privatisation donne du grain à moudre, alimente le soupçon déjà très répandu qu'il est un président des riches qui fait des cadeaux à ses amis les riches. Comme les arguments avancés ne convainquent pas, la machine à soupçons s'emballe. De nombreux Français ont le sentiment qu'il y a des raisons et des intérêts inavoués qui conduisent à cette privatisation. Et donc, là encore, c'est susceptible de conduire un grand nombre de personnes à s'impliquer. Et puis troisièmement, certains vont se mobiliser pour des raisons politiques, pour jouer un mauvais tour à un président qu'il déteste. Toutes ces considérations font que le seuil de 4 700 000 signatures, qui à première vue apparaît vraiment très élevé, n'est finalement peut-être pas inatteignable. Et il n'est donc pas impossible qu'à terme, Emmanuel Macron soit contraint d'organiser un référendum qui dès lors serait immanquablement détourné et tournerait à la question pour ou contre Emmanuel Macron.
L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Pascal Canfin, numéro 2 de la liste Renaissance de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grolier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Première question, monsieur Canfin, La République En Marche a placé la transition écologique en tête de son programme aux européennes, en particulier avec cette promesse d'investir au moins 1000 milliards d'euros d'ici 2024. Reste à savoir où trouver l'argent, ou plutôt chez qui. 1000 milliards, c'est peu ou prou la somme estimée de l'exil fiscal. C'est également le montant de la somme que la Banque Centrale Européenne avait réinjectée pour sauver les banques lors de la crise en 2008. Et puis c'est aussi l'équivalent de ce que la BCE, toujours elle, crée chaque année depuis 2015 pour relancer la croissance, à ceci près que 89% en réalité de cet argent va à la spéculation financière. Bref, l'argent existe, à qui allez-vous le réclamer?
D'abord, pourquoi 1000 milliards? Parce que la Commission européenne elle-même dit qu'il manque 200 milliards d'investissements verts par an dans l'économie européenne. Que ce soit les particuliers pour isoler les logements, que ce soit les entreprises ou les grandes infrastructures publiques. Donc cette somme, elle ne tombe pas du ciel. J'ai entendu des candidats la critiquer en disant que c'était du marketing. Non, c'est une analyse extraordinairement fouillée de la Commission européenne pour dire 200 milliards par an fois 5 ans, ça fait 1000 milliards. Ensuite, comment on fait ? Une des mesures, c'est de créer cette fameuse banque du climat, dont la seule mission serait de financer le changement d'échelle de la transition écologique, parce qu'il y a une urgence climatique et qu'on est en train de rater la bataille. Et donc, c'est pour ça que nous mettons cela en angle numéro un, en axe numéro un de notre projet, parce qu'on le sait très bien, si on ne le fait pas maintenant à l'échelle du continent, eh bien, malheureusement, demain, ce sera trop tard.
Et donc, qu'est-ce qui alimente la fameuse banque du climat? On fait tourner la planche à billets?
Donc, il y a plusieurs ressources possibles. On est en train d'y travailler. Il peut y avoir une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Il peut y avoir une taxe sur les transactions financières. Il peut y avoir ce qu'on appelle, terme un tout petit peu technique, vous m'en excuserez, un nouveau dispositif qui sera dans le budget européen, qui s'appelle InvestEU. C'est un nouveau plan d'investissement de la Commission. On agrège tout ça dans une structure unique qui, parce que c'est une banque, peut elle-même s'endetter auprès des banques centrales. C'est ce que vous décrivez rapidement. Quand on fait tout ça, on est capable de générer 200 milliards d'investissements de plus par an et donc de résoudre une grande partie de la crise climatique.
Question d'Annabelle Grolier.
Pascal Canfin, quelle est la différence entre être écologiste sur une liste La République En Marche et être écologiste sur une liste Europe Écologie Les Verts?
Mais je dirais qu'il y a une différence d'utilité. C'est-à-dire que la liste Renaissance, soutenue par le président de la République ou par des personnalités comme Alain Juppé, c'est de la liste qui sera au cœur de toute majorité future du Parlement européen. Aucune coalition politique majoritaire demain au Parlement européen ne sera possible sans nous. Et donc ça nous donne un bras de levier pour faire exactement la mesure dont on vient de parler. La Banque du Climat, je pourrais en citer évidemment d'autres. Donc moi, si je me suis engagé, c'est d'abord parce qu'il y a urgence. Et parce qu'il y a urgence, il faut être le plus efficace possible. Et c'est là qu'on peut peser.
Alors, comment pouvez-vous imaginer infléchir la politique d'Emmanuel Macron, là où Nicolas Hulot, qui disposait quand même d'un gros levier de l'opinion publique, a échoué?
C'est en train d'arriver. Je pense qu'Emmanuel Macron est en train de changer. D'ailleurs, il a dit lui-même dans une intervention sur le perron de l'Élysée il y a quelques jours, quand il recevait les scientifiques de la biodiversité, il a dit « Je serai jugé, l'histoire me jugera à l'aune de ma capacité à régler la question climatique et environnementale, à être un des leaders sur ce sujet et à pas seulement faire des discours, bien évidemment, mais passer aux actes. »
Il vous a donné des gages?
Et donc, un des éléments dont j'ai discuté avec lui avant de m'engager, ça a été sa position sur les accords commerciaux. Parce que on peut plus continuer à négocier des accords commerciaux comme avant et dire le climat, ça n'existe pas. Et j'ai noté qu'il y a un mois à peu près, il a été le seul chef d'État en Europe à dire non à l'ouverture d'accords commerciaux avec Donald Trump au nom du climat. C'est la première fois qu'un chef d'État disait le climat, c'est plus important que le commerce. Mais ça, c'est fondamental.
Et sur le projet de la Montagne d'Or, l'annonce de l'abandon par Emmanuel Macron, ça sera avant le scrutin?
Alors,
du 26 mai.
C'était un deuxième élément important de mon engagement, c'était de dire ce projet n'est pas compatible avec une ambition écologique, notamment sur la question de la biodiversité. Vous savez, l'Amazonie, ça paraît loin, mais on a un bout d'Amazonie. C'est l'Amazonie française, c'est la Guyane. C'est incompatible avec toute ambition écologique. C'est pour ça que le président de la République a pris considérablement ses distances avec ce projet, dont on peut considérer aujourd'hui qu'il est mal en point. Maintenant, il faut prendre la décision finale dans le respect du territoire guyanais.
Donc ça abandon veut dire ou que, pas abandon ?
Ça veut dire que moi, ma position, elle est très claire, c'est qu'il faut arrêter ce projet. Je pense que tout le monde aura compris que si Emmanuel Macron veut prendre une décision dans un cadre qui s'appelle le Conseil de défense écologique, c'est probablement pas pour faire ce projet. Il faut pas, voilà. Mm-hmm. Par contre, il faut le faire avec un plan B pour la Guyane. Parce que c'est trop facile depuis Paris de dire on fait pas ce projet, mais localement on propose rien
d'autre. Mais il n'y a pas de en même temps que vous craignez dans cette histoire.
Je ne crains pas en même temps. Par contre, je veux clairement ne pas donner l'impression aux Guyanais que tout d'un coup, depuis Paris, la décision est prise et ils sont abandonnés. Non, évidemment, ce projet, il ne faut pas le faire. Et tout le monde a compris quelle était la position du président de la République. Mais il faut le faire proprement pour que, encore une fois, il y ait un développement économique nécessaire et évidemment durable de la Guyane.
Et on terminera par ces mots. Merci Pascal Canfin, numéro 2, je le rappelle, de la liste.
Merci
Renaissance de la majorité présidentielle pour les élections européennes. Merci également à Annabelle Grolier. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Globalement nuageux avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la façade atlantique. Les températures, elles seront généralement comprises entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.